Pour entrer dans le vif du sujet, effectivement, le titre de la conférence d'aujourd'hui s'intitulait « Quand la forêt se renaît de ses cendres ». J'avais rajouté un sous-titre qui était « Les écosystèmes méditerranéens à l'interface de l'homme, du climat et des incendies ». Car ces écosystèmes méditerranéens, qu'ils soient dans la zone méditerranéenne proprement dite, c'est-à-dire celle qui est autour du bassin méditerranéen, ou comme on le verra, les autres zones à climat méditerranéen par le monde, sont en général caractérisées par cette influence double, en tout cas, entre le feu et le climat. Et pour notre partie européenne, on va dire circumméditerranéenne, en particulier par l'histoire extrêmement longue de l'homme sur ces écosystèmes, qui les a modifiés au cours des temps. Alors, en général, si on s'intéresse à vouloir comment définir un écosystème méditerranéen, c'est la base d'entrée initiale, c'est le climat. C'est-à-dire qu'on définit les grands biomes, c'est-à-dire les grands ensembles biologiques au niveau de la planète, à partir de caractères climatiques. Ce qui définit le climat méditerranéen sur l'ensemble du globe, et ce n'est pas un caractère géographique, c'est une alternance entre un été chaud et sec, et un hiver doux et froid, ou humide selon les cas. Donc c'est cette double caractéristique qui définit ce qu'on va appeler un climat méditerranéen, et qui va le différencier des autres types de climats, que ce soit des climats continentaux, océaniques, etc. Donc ces conditions climatiques particulières, au cours des temps d'évolution, c'est-à-dire au cours de plusieurs millions d'années, vont amener des évolutions des organismes vivants, et en particulier, pour ce qui nous intéresse dans la partie européenne, une flore originale, qui est un mélange de flore européenne, qui résulte des progressions suite au retrait des glaciers il y a environ 10 000 ans, et également en mélange avec les flores tropicales qui étaient remontées dans des périodes historiques. Donc, ce climat, il a une particularité, c'est qu'il est extrêmement difficile pour la végétation. Généralement, on considère que le climat méditerranéen est plutôt agréable, si on compte en tout cas le nombre d'habitations résidentielles que l'on va rencontrer sur la côte. Mais par contre, pour la végétation et les organismes vivants, c'est un climat qui est assez difficile, parce qu'en hiver, lorsqu'il y a de l'eau en abondance, de manière générale, il fait trop froid, en tout cas suffisamment froid dans la plupart des cas, pour ralentir la croissance de la végétation. Et en été, la période qui est favorable au niveau température, les végétaux n'arrivent pas à se développer parce qu'il c'est trop sec. Donc on a cette double contrainte qui amène ces caractéristiques de cette végétation méditerranéenne qui peut être des fois perçue comme rabougrie ou arbustive, si on lit des textes un petit peu anciens, mais qui a dû s'adapter à ces deux conditions. L'essentiel de la croissance, aussi autre particularité, c'est qu'elle se réalise au printemps et à l'automne, période pendant laquelle il y a suffisamment d'eau et température suffisamment élevée pour avoir une croissance, ce qui fait qu'on a cette espèce de double période de végétation. Ceux qui sont originaires de la région savent très bien qu'on a le printemps, qui est relativement court, et ensuite on va avoir une seconde saison, on va avoir un reverdissement de la végétation au niveau du mois de septembre-octobre. Donc si on s'intéresse au niveau planétaire, les végétaux qui sont caractéristiques de ces régions méditerranéennes sont les végétaux qu'on appelle les végétaux sclérophylles, qui en fait simplement veut dire à feuilles dures. Ces végétaux ont la caractéristique de rester toujours verts, ce qui fait que la végétation méditerranéenne n'est pas comme dans le reste de l'Europe, si on monte un petit peu plus, dès qu'on dépense chez nous, dès qu'on monte vers Lyon par exemple, on passe sur un autre système. Ces végétaux ne perdent pas le feuillage l'hiver, et ce qui leur permet, dès qu'il y a des conditions favorables d'un point de vue hydrique ou thermique, de pouvoir enclencher la photosynthèse et donc de pouvoir croître. Mais en même temps, et ce sont des feuilles dures, vernissées, qui les protège de pertes abusives d'eau en période estivale. Et si on va très loin dans le sud, c'est-à-dire si on se dirige la Grèce, le sud de la Grèce, le sud de l'Espagne, ou si on passe au Maghreb, dans des zones qui sont encore au bioclimat méditerranéen, dans les variantes les plus chaudes, on va trouver des types de végétaux qui ont des stratégies encore plus drastiques, c'est-à-dire qu'ils vont non pas perdre, comme dans le nord, les feuilles l'hiver, ils vont perdre les feuilles l'été, pour éviter de perdre de l'eau. Toute la stratégie, c'est comment ne pas perdre d'eau dans la période sèche. Parce que si on perd de l'eau, ça veut dire que le végétal entier meurt, et donc la vie s'arrête. Alors, les questions d'économie des ressources. Donc, comme je l'ai dit, le bioclimat méditerranéen, c'est une alternance de saisons sèches et chaudes, et de saisons froides et humides. Si on considère cette alternance comme la caractéristique du bioclimat méditerranéen, on va voir au niveau du monde plusieurs zones qui sont dites méditerranéennes. Donc on a bien sûr le bassin méditerranéen, que ce soit au sud ou au nord de la Méditerranée, mais on va retrouver également en Amérique du Nord la Californie, qui a un climat comparable au nôtre, légèrement plus chaud, en tout cas pour la Californie du Sud. On va la retrouver dans l'hémisphère sud, au niveau du Chili. On va trouver une zone à climat méditerranéen, qui n'est pas par hasard d'ailleurs la zone dans laquelle on va retrouver également la production de vin. C'est la zone viticole du Chili. On va retrouver cette zone méditerranéenne en Afrique du Sud, dans la région du Cap. On a une très grande zone à climat méditerranéen, où on retrouve également d'ailleurs la production viticole australe. Et en Australie, dans le sud-ouest australien, on trouve une zone à bioclimat méditerranéen. Et dans l'ensemble de ces zones, on trouve des végétations qui ont des caractéristiques assez similaires et des conditions, notamment par rapport au feu, qui se rapprochent. Donc la végétation caractéristique de la zone méditerranéenne, c'est ce qu'on appelle un terme générique, qui est un terme que les scientifiques se sont mis d'accord entre eux, qu'on appelle les matorrales. À l'origine, c'est un terme espagnol, matorrales, mais on l'a utilisé pourquoi ? Ben, tout simplement parce que dans chaque pays méditerranéen, dans chaque zone méditerranéenne, on a un nom qui est propre. Et donc c'est des fois un petit peu difficile, donc on a trouvé un nom générique pour tout le monde, matorral. Et si on s'intéresse aux déclinaisons de ces différents types de végétation, qui sont toutes des formations arbustives à petites feuilles, sclérophiles. En France, on va trouver la garrigue et le maquis. La garrigue étant sur les sols calcaires, le maquis étant sur les sols non calcaires. Donc on va les retrouver dans le Var, l'Estérel par exemple. En Italie, on a une appellation qui est très proche, qui est le maquia. Il faut savoir qu'ils ne font pas de différenciation. Le maquia va pousser aussi bien sur calcaire que sur non calcaire. Au Portugal, on va trouver le Mateus, on va trouver le Matos en Espagne, les Friganes en Grèce. Une particularité à Marseille, sur les îles du Frioul, on trouve des Friganes. Et sur un petit peu, si on va vers les Goudes, par exemple, sur la pointe des Calanques, on va trouver une végétation qui s'apparente aux végétations insulaires grecques, avec des espèces qui perdent les feuilles en été. C'est un petit peu la caractéristique des Friganes. En Californie, donc zone bioclimat méditerranéen, les arbustes s'appellent un chaparral. En Afrique du Sud, le Finbos, qui veut dire buisson à petites feuilles en néerlandais, et le Congan australien, et le matorral chilien. Alors, comme je l'ai dit, la végétation méditerranéenne, en tout cas pour ce qui concerne le bassin méditerranéen, comme vous savez, la civilisation est extrêmement ancienne. Les civilisations méditerranéennes sont implantées depuis les périodes pré-agricoles. Ils sont particulièrement développés à l'agriculture. Et donc, la végétation et la forêt méditerranéenne ne peut pas se comprendre, même à l'heure actuelle, sans avoir cette profondeur historique. Pourquoi ? Parce qu'au cours du temps, l'homme a géré les espaces pour différentes ressources, que ce soit les ressources forestières, les ressources en bois de chauffe ou en bois qui pouvaient servir à fondre le bronze, à fondre le verre, ou alors parce qu'ils ont délibérément favorisé certaines essences, par exemple l'extinction actuelle du chêne vert en Méditerranée comme la France, est due principalement à l'usage que l'on faisait du chêne vert pour le bois de chauffe ou le charbon. Le chêne vert étant beaucoup plus facile à exploiter que le chêne blanc, puisqu'on peut faire des coupes beaucoup plus rapides. Donc les premières traces de défrichement humain remontent à 6000 ans avant Jésus-Christ, et avec une génération extrêmement importante à partir de 2000 ans, notamment avec la mise en place de civilisations agricoles. Ces civilisations agricoles sont accompagnées d'une double exploitation qui a un impact majeur sur les écosystèmes méditerranéens. L'agriculture proprement dit, c'est-à-dire qu'il faut défricher, donc labourer, donc éliminer la forêt, Et il faut faire du pastoralisme. Et le pastoralisme, en général, on le gère en brûlant. Ça permet de générer des pâturages. Alors, il faut voir aussi pourquoi l'histoire. Tout simplement parce que on a eu une vision dans les médias qui était de dire les feux de forêt sont catastrophiques, la forêt va disparaître du fait des feux. Alors par rapport à ça, il faut avoir une vision qui ne peut, dans laquelle il faut avoir cette profondeur historique, parce que l'étendue que l'on connaît actuellement en France et de manière générale en Europe forestière est bien plus importante que ce qu'elle a été dans une période historique récente. Mais au cours du temps, ces forêts ont bougé en fonction des populations humaines. En général, les périodes de calme ont été accompagnées de défrichements massifs parce qu'elles étaient favorables à la mise en place d'agriculture et d'exploitation forestière en dehors des zones urbaines, des centres de villes ou des villas romaines qui étaient protégées. Et les périodes de troubles étant défavorables, soit parce qu'il y avait des populations qui étaient décimées par des maladies, soit parce qu'il était extrêmement dangereux de rester dans les campagnes, se sont accompagnées d'extensions forestières. Donc, si on peut regarder ce qui s'est passé depuis la période que je vous ai dit, c'est-à-dire à peu près moins 5000 jusqu'à l'actuel, on pourrait imaginer que le maximum à peu près des surfaces forestières au niveau national se situe dans la période néolithique, à l'intervalle entre le paléolithique et le néolithique, sur lequel on avait environ 45-46 millions d'hectares de forêts estimés. Et au cours du temps, on a eu une décroissance régulière, en passant par la période celtique, avec la mise en place des premières exploitations agricoles massives, avec l'invention des charrues, du bronze, puis après du fer, qui ont permis d'exploiter de manière extrêmement efficace les forêts. La période gallo-romaine extrêmement favorable, une période relativement calme. Il y a eu une petite période au moment de la fin de l'Empire romain et ce qu'on a appelé les invasions barbares, sur laquelle il y a eu un petit sursaut forestier, mais qui a été vite recalmé par la période franque qui a suivi, pour aboutir au quasi-minimum forestier qui était la période féodale. Donc on appelle le Moyen-Âge, entre le 10e et le 14e siècle, sur lequel on avait environ 10 millions d'hectares, soit un quart de la surface maximale de la forêt française. Suite à cette période féodale, il a été suivi une période qui a été un petit peu plus mouvementée. Il y a eu les grandes pestes, il y a eu les guerres de religion, la guerre de Cent Ans. Donc tous ces phénomènes, comme je l'ai dit, ont mené à une reconstitution forestière, avec une remontée à 13-14 millions d'hectares. Puis ensuite, calme, puis exploitation forestière beaucoup plus cadrée, avec une explosion des populations, amélioration des conditions de vie, amélioration des conditions agricoles. Donc ce qu'on appelle la période moderne, qui s'est achevée avec la Révolution, enfin la première phase de la période moderne avec la Révolution, où on avait vraiment le minimum des forêts françaises, 6 à 7 millions d'hectares de forêts en France, et avec, si on s'y reporte au texte, des forêts qui étaient en état extrêmement précaire, la plupart des surfaces forestières étant généralement considérées comme surexploitées, rabougries, avec des arbres malingres, qui ont généré tout un tas d'arrêtés. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder dans les archives communales ou régionales, vous trouverez des écrits qui réglementent le nombre de bois que peut porter un homme ou extraire d'une forêt, interdiction d'accès avec des chariots parce que ça prélève trop, etc. Suite à ça, on a commencé à voir, à partir de la Révolution, une meilleure prise en main de la gestion forestière, avec un peu plus de cadres qui en permet de remonter. Puis si on prend la dernière période, c'est-à-dire 1914, le XXe siècle, qu'est-ce qui se passe? 1914, on a passé la Révolution industrielle, la Première Guerre mondiale avec, d'une part, la mise en place de pratiques plus modernes, puis une mortalité extrêmement élevée chez les hommes et chez les agriculteurs, donc qui a entraîné une première phase d'exode rural qui s'est suivie après la Seconde Guerre mondiale pour d'autres raisons qui étaient particulièrement la mécanisation de l'agriculture et l'abandon de toutes les terres qui étaient relativement peu favorables, ce qui a entraîné une remontée forestière puisqu'on se retrouve à l'heure actuelle à peu près à 20 millions d'hectares. Donc les forêts françaises actuellement sont supérieures à ce qu'elles étaient à la période féodale et elles se rapprochent des forêts du Moyen-Âge. Donc il faut avoir un petit peu cette vue que ces paysages varient et que la zone et ce taux de reconstitution des forêts est particulièrement fort dans la zone méditerranéenne, parce que c'est une des zones qui a été particulièrement touchée par l'abandon agricole, cette déprise agricole qui a amené les agriculteurs à abandonner tout un tas de terres qui étaient extrêmement précaires, qui étaient exploitées, qui étaient un petit peu une agriculture de misère, travailler sur des collines extrêmement sèches, les restanques. On trouve de partout, dans les secteurs périmarseillais, des restanques abandonnés sous les collines. Tout ça, il faut voir, au XIXe siècle, c'était exploité. Il y avait très peu de surface non exploitée. Ce qui n'était pas exploité pour l'agriculture était exploité par le pastoralisme. Donc depuis la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier les années 50, on a une croissance extrêmement forte des forêts. Donc si on s'intéresse à des essences en particulier, on peut prendre quelques chiffres. Depuis un siècle, les surfaces de pin sylvestre ont été multipliées par 3. Les surfaces de pin d'Alep, donc le pin qu'on retrouve sur les tableaux de Cézanne, multipliées par 2. Les forêts de chêne blanc, les forêts de chêne liège ont été multipliées à un facteur un petit peu plus faible. Ce sont des espèces qui ont une dynamique beaucoup plus lente, qui produisent moins de graines, et qui bien souvent se développent après les pins. Donc c'est pour ça que ça explique cette croissance plus faible. Et deux essences en régression, le chêne vert qui régresse légèrement, mais on a eu une régression qui était plutôt dans la première période du XXe siècle, tout simplement parce que le chêne vert, comme je l'ai dit, c'était l'essence favorable, la plus favorisée pour ses utilisations pour le charbon, le petit bois. On a abandonné ces pratiques pour passer à d'autres systèmes, le pétrole, etc. Donc on a eu une chute du chêne vert en faveur du chêne pubescent qui a pris sa place. Et le pin pignon, qui est une essence un petit peu particulière, qui était favorisée aussi pour des raisons d'exploitation du pignon, mais aussi parce que c'est une essence très méditerranéenne et qui se trouve dans les secteurs les plus urbanisés à l'heure actuelle. Côte d'Azur, Var, Alpes-Maritimes. Et donc les espaces libres pour le pin pignon, en général, ne le sont plus parce qu'ils sont occupés par les zones urbaines. Donc si on prend par exemple ce qui se situe dans un secteur extrêmement proche ici, la ville d'Auriol, aux portes de Marseille, et qu'on s'intéresse encore à ces évolutions au cours du temps, il est particulièrement facile de voir dans n'importe quel archive, si on s'intéresse au cadastre, si on s'intéresse aux photographies anciennes. Il y a des études assez intéressantes d'ailleurs qui sont basées sur l'usage de cartes postales. Alors, si on prend les cartes postales du XIXe siècle, on voit ces collines extrêmement pelées, avec très peu d'arbres, et une forte exploitation agricole. Donc au cours de ce siècle, on a eu des changements majeurs qui continuent. Abandon des cultures, abandon du pastoralisme. On ne trouve quasiment plus de troupeaux de moutons à l'heure actuelle dans nos collines. Il faut monter dans les Alpes de Haute-Provence pour en trouver. Mais les troupeaux étaient fréquents dans le sud de la Provence. Et tout ça a entraîné une augmentation extrêmement forte des surfaces embroussaillées, qui sont soit occupés par des garrigues, soit occupés par des forêts, et actuellement principalement par des forêts de pin d'Alep, dans la zone périmarseillaise. On peut voir ça d'une autre manière lorsqu'on s'intéresse au niveau du territoire. Si on part par exemple des années 50, ce qui va se passer, c'est que là où les forêts vont se développer, ce n'est pas dans les secteurs qui étaient déjà forestiers dans les années 50. Ça va se développer dans les espaces agricoles. Donc ces espaces agricoles vont être progressivement occupés après l'abandon par des zones herbacées qu'on appelle des friches. Ces friches elles-mêmes sont occupées ensuite par des arbres qui arrivent progressivement, ou alors par un autre type de mécanisme particulièrement important en zone méditerranéenne, par les zones urbaines. C'est-à-dire qu'on a un double développement. Les cultures sont abandonnées, elles sont occupées, si on les laisse tranquilles, par une dynamique naturelle de la végétation qui va entraîner la mise en place de forêts. Mais en général, ces espaces agricoles abandonnés sont vendus pour être utilisés à des zones en tant qu'espace de construction. Et ça a été particulièrement fort dans toute la zone qu'on va appeler côtière. C'est-à-dire si on remonte, pour faire large, 30 ou 40 km par rapport à la côte méditerranéenne. Et tout ça, tout ce que je vous explique, c'est-à-dire cette transition par l'abandon de l'agriculture, cette dynamique d'expansion forestière, cette extension urbaine, génère des paysages qui n'étaient pas très présents il y a ne serait-ce que 100 ans ou 150 ans. Des friches arborées, c'est-à-dire des espaces agricoles abandonnés occupés par des arbres, en particulier par le pendalepe, mais également du chêne vert et autres arbustes, en particulier les arbustes à fruits qui sont transportés par les oiseaux. On va trouver dans les espaces qui sont restés forestiers mais qui ne sont plus exploités, parce que les forêts méditerranéennes sont extrêmement peu rentables. Il n'y a pas de grands arbres qui permettent d'extraire des troncs de bonne qualité. Pour l'instant, et ça pourrait changer, c'est des choses qui sont en discussion à l'heure actuelle avec la question des biocarburants ou en utilisant un petit peu plus la forêt pour de l'énergie, le bois énergie. Peut-être qu'on va revenir à exploiter les forêts telles qu'on les exploitait au 19e siècle pour fabriquer du petit bois ou du charbon pour le chauffage. Ce n'est pas exclu. Mais actuellement, ce qui s'est constitué, c'est des grands massifs boisés, continus, qui n'existaient pas il y a 100 ans en Provence. Donc on va retrouver ça dans les Maures, on va retrouver ça dans le Luberon. On l'avait sur la Sainte-Victoire. On a des grands espaces qui n'existaient pas. On retrouve aussi un paysage typique qui est celui du mitage urbain. Donc ces implantations, notamment de villas et d'espaces résidentiels, quelquefois de lotissements, qui sont dans les anciennes zones agricoles, mais qui sont boisées maintenant. Et on obtient une structure originale, extrêmement dangereuse, qui est celle qu'on appelle les interfaces urbaines-forêts. Si on remonte un peu plus loin dans le temps, je veux dire, au 19e siècle, la zone urbaine était centrale. Il y avait les maisons, on avait autour, en général, les espaces agricoles, les champs. Il y avait quelques petits bâtiments ou villas isolés, mais en général, c'était plutôt des cabanons dans lesquels on stockait les outils ou le matériel dans les zones agricoles. Et puis après, un petit peu plus loin, il y avait les zones forestières ou pastorales. C'est-à-dire que le contact entre la ville et la forêt était relativement modéré, ce qui n'empêchait pas les incendies. Les incendies, il y en a historiquement depuis des milliers d'années. Mais en tout cas, ça minimisait un petit peu les risques. À l'heure actuelle, on se situe avec un contact direct, voire même une imbrication absolue entre les zones d'habitation et les zones forestières. Ce qui génère un risque incendie majeur, à la fois pour les habitations, parce que si le feu démarre dans une zone continue, peut-être loin des habitations et qu'elle se propage, elle va arriver sur les habitations, entraîner un risque, donc ce qu'on appelle la vulnérabilité. Mais également un risque d'éclosion d'incendie, parce que en général, dans la 90% des cas, les feux de forêt résultent de l'activité humaine. Et dans la zone méditerranéenne française, on considère que les feux naturels ne sont que de 2% des causes. Les autres sont liés à l'homme. Liés à l'homme, ça ne veut pas dire que ce soit des feux forcément criminels. On estime à peu près à 25-30% le nombre de feux d'origine criminelle. Tout le reste sont des feux qui sont liés à l'activité. Soit des activités propres au milieu naturel, ça peut être le débroussaillage, soit ça peut être tout simplement des risques liés aux infrastructures de transport. Il y a eu des feux qui se sont déclarés, par exemple, lors de freinage de chemin de fer, qui déclenchent si les abords du chemin de fer ne sont pas bien débroussaillés, il peut y avoir des étincelles. Les accidents de voiture, en bordure de massif, etc. Les barbecues, enfin les cas typiques, et puis les imprudences. Donc ce mitage urbain, qu'on le retrouve un petit peu partout, c'est vraiment la caractéristique paysagère majeure à l'heure actuelle en zone française, méditerranéenne française, ce n'est pas forcément le cas dans notre secteur du monde. On retrouve un petit peu l'équivalent de manière assez originale en Californie, par exemple, où on a ces villas qui sont imbriquées. Le cas australien qui a un petit peu fait les médias il y a 2 ans est un petit peu différent parce qu'ils n'ont pas ces grands espaces agricoles qui existaient. Ils sont arrivés, il y avait directement les forêts et ils sont construits dans les forêts. Bon, ils ont un mode de vie légèrement différent du nôtre. Donc si on s'intéresse de plus près aux incendies de forêt, après avoir brossé ce paysage, à l'heure actuelle, les surfaces forestières brûlées sont environ, en moyenne, c'est une moyenne, sur la dernière décennie, de 15 000 hectares par an, avec des extrêmes qui peuvent monter jusqu'à 70 000 hectares, comme 80 000 hectares, je ne sais pas le chiffre exact, en 2003, qui a été une année particulière, qui était extrêmement chaude, si vous vous en rappelez. Ces surfaces qui sont relativement basses, à titre de comparaison, en Australie méditerranéenne, on est à 150 000 hectares brûlés par an. Et si on considère la totalité de l'Australie, c'est 4 millions d'hectares qui sont brûlés chaque année. Donc on a des surfaces en France qui sont relativement faibles, mais il faut les reconstituer. C'est-à-dire qu'on est dans un territoire avec une très forte imbrication de l'homme et des milieux naturels. On n'est plus dans des grands espaces naturels, on peut se permettre de laisser brûler. Un feu qui démarre aboutira quelque part très rapidement de l'autre côté du massif, dans un autre lot d'habitation. Et ça se voit assez régulièrement. Ces surfaces aussi résultent, je le montrerai sur une explication un petit peu plus tard dans mon exposé, résultent aussi des politiques mises en œuvre pour la protection et la prévention des feux qui sont extrêmement efficaces, puisqu'on peut voir très facilement que depuis la mise en œuvre des politiques de prévention des feux de forêt, on a eu une réduction majeure des surfaces au niveau national. Et on peut le retrouver dans tous les autres pays méditerranéens à partir du moment où ils ont mis en place une politique de prévention active. Mais cet exposé est plutôt pas tellement orienté sur l'aspect prévention risque, mais plutôt sur l'aspect dynamique forestière et sur la réponse de la végétation. La forêt, comme les autres végétations, ont une capacité qu'on appelle une capacité de résilience en langage écologique, qui est la capacité à se reconstituer après une perturbation. Les perturbations pouvant être soit, par exemple, des coupes forestières, c'est-à-dire à partir du moment où on coupe une forêt, ça la perturbe, parce qu'il n'y a plus d'arbres. Ça peut être une tempête, parce que ça s'est vu dans les forêts landaises, par exemple, lors des épisodes de tempête. Ça peut être également un incendie tel qu'on les rencontre fréquemment dans la zone sud française. Alors comment se place le feu dans ce cycle naturel des choses? Comme je vous l'ai dit, en zone méditerranéenne française, la plupart des feux de forêt sont d'origine humaine. Il en reste quand même une proportion qui est d'origine naturelle. En général, les cas naturels, c'est les impacts de foudre. Sur la zone française, c'est relativement rare parce qu'on a relativement peu d'épisodes d'orages secs. C'est extrêmement fréquent en Australie, en Californie ou en Afrique du Sud, où ils ont souvent des épisodes d'orages secs. Alors pourquoi des fois on a un petit peu un décalage entre le discours des écologues, dont je fais partie, et le discours des forestiers ou des gens qui travaillent à la prévention des feux, qui est de dire le feu, c'est pas forcément une catastrophe écologique? Tout simplement parce qu'elle s'inscrit dans un cycle naturel. Elle ne devient, on va dire, une catastrophe qu'à partir du moment où elle entraîne des dégâts humains, des dégâts économiques, ou alors si la répétition des incendies est telle qu'elle va dégrader fortement l'écosystème. Mais dans un cycle naturel, les forêts, ça se développe, ça vit, ça meurt. En général, c'est au rythme de la vie, de la durée de vie des arbres qui dominent cette forêt. Selon les essences, ça peut être une durée de 150 ans, voire plusieurs milliers d'années. Donc on a une phase initiale, si on démarre un petit peu, qui est la phase avec des jeunes arbres qui s'implantent. On peut imaginer un espace agricole abandonné, on va avoir des graines qui arrivent, transportées soit par les oiseaux, soit par le vent. On va avoir constitution d'une forêt initiale constituée de jeunes arbres. Cette forêt va, en général, en 50, 60, un siècle, va mûrir pour se développer avec des arbres de grande dimension. Et on va commencer à avoir, au niveau du sol, des individus morts, puisque une partie des arbres qui ont poussé initialement vont mourir, ils vont être éliminés par les autres, qui vont pouvoir grandir. Parce qu'on imagine bien qu'un grand arbre occupe bien plus de place qu'un petit plant. Donc pour pouvoir se développer, ben, ils se font au détriment des individus les moins forts. Donc la forêt mature, on a une forêt qui est de plus en plus ancienne et qui va contenir de plus en plus de bois morts. Pour arriver jusqu'à la phase dite de déclin, on va avoir énormément de bois morts. On la rencontre relativement peu en zone méditerranéenne française et de manière générale en France, pour deux raisons. Premièrement, c'est parce qu'on a des forêts qui sont la plupart du temps gérées. Et lorsque la forêt sont gérées, soit par les opérateurs privés, soit par les opérateurs de l'État tels que l'ONF, eh bien, on va avoir des premières opérations qui est d'enlever tout ce qui est bois mort. Le feu, qui est une perturbation, elle va jouer à différents stades, parce que le feu est susceptible de passer à n'importe quel moment dans une forêt. Elle peut passer directement à la phase initiale, voire à la phase tout début, c'est-à-dire au moment où on a encore des broussailles. à différents moments, ben, le feu va agir comme un rajeunissement de l'écosystème. C'est-à-dire qu'en éliminant les arbres adultes, il va rajeunir l'écosystème et on va repartir au niveau de la phase initiale. À partir du moment où, sur le site, on va avoir conservation de sol, conservation des racines, des espèces qui peuvent se reconstituer à partir des racines, ou alors conservation de graines. Donc le feu s'inscrit dans une dynamique naturelle. Il sort de cette dynamique naturelle à partir du moment où sa répétition devient tellement intense qu'il entraîne une dégradation des forêts. Et en général, en zone méditerranéenne, c'est qu'on a observé au cours des millénaires, puisque ces espaces méditerranéens étaient gérés par l'homme, en particulier pour l'exploitation sylvopastorale, par le feu. Les feux pastoraux sont bien connus. Et si on couple ces feux pastoraux avec une caractéristique qui nous est propre, qui est aussi ce relief escarpé, ces sols très rocailleux, couplé à des événements de pluie intense, eh bien, on a en général, au cours du temps, une érosion. C'est-à-dire que toute la terre qui se trouvait sur les collines et sur les pentes, elle va être tombée dans les fonds de vallon, dans les plaines. Et on va aboutir sur des collines qui sont relativement squelettiques, avec très peu de sol, des rocailles apparentes, qui d'un côté sont les caractéristiques des paysages méditerranéens, qu'on retrouve dans les photos, dans les peintures, comme une image de marque, mais qui résultent en très grande partie pour la France de cette histoire d'exploitation. Si on n'avait pas d'exploitation humaine, la majeure partie de notre territoire méditerranéen français serait couverte de forêts. Et de forêts majoritairement décidues, telles du chêne blanc en particulier, ou qu'on appelle quelquefois le chêne Rouvre. Vous pouvez le retrouver dans des noms de lieux, par exemple. Il y a pas mal de lieux qui s'appellent la Rouvrerie ou la Rouvrerie. Tout ça résulte, ou les Essarts, résulte d'anciennes zones d'exploitation forestière ou de zones où on trouvait des forêts décidues. Et avec le temps, la végétation change. Si on est très proche d'un feu, initialement, on se retrouve avec un maquis, donc maquis ou garrigues, ces formations qui se développent après feu. Au cours du temps, on a une augmentation les espèces qui peuvent grandir, les arbres, les petits arbustes poussent. On a une création de ce qu'on appelle un maquis haut, puis après un maquis boisé, puis après une forêt. Et on a cette maturation avec une augmentation de la biomasse au cours du temps, qui va entraîner également différents comportements par rapport au risque incendie. Ce qui est le plus dangereux par rapport à un incendie en termes énergétiques, c'est qu'il y ait une continuité de végétation. Continuité de végétation horizontale et continuité de végétation verticale. Alors verticale, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que du sol jusqu'au sommet des arbres, si on a du feuillage et des petites branchages, on a une continuité et tout feu qui part au sol va monter jusqu'au sommet. Et continuité horizontale, c'est cette espèce de continuum forestier. Donc les activités en général de prévention, ça va être quoi? C'est ces ruptures de continuité. Rupture de continuité horizontale par la création des coupures de combustible, tranchées par feu, débroussaillement obligatoire le long des voies et des maisons. Et rupture de combustible verticale avec le débroussaillage, puisqu'on va ôter toute la biomasse qui est présente au niveau du sol pour limiter le contact entre le sol et le haut, de manière à ce que si un feu démarre au sol, il ait le moins de chances possible de monter jusqu'au sommet. Chez nous, on le fait de manière mécanique. En Australie, par exemple, ils le font de manière... ils luttent le feu par le feu. C'est-à-dire que pour débroussailler le sous-bois, ils déclenchent des feux. C'est ce qu'on appelle des brûlages contrôlés. C'est une technique qui est possible, mais qui ne peut se faire que sous certaines conditions. Il faut que les conditions de vent, d'humidité soient très particulières pour que le feu qui va parcourir le sous-bois ne se transporte pas, n'atteigne pas une énergie suffisante pour détruire la forêt elle-même. Alors chez nous, il y a des petites expérimentations. C'est une pratique qui n'a pas toujours bonne presse parce qu'elle est risquée. Il faut avoir une très grande technicité pour la mettre en œuvre. Elle est aussi associée à l'image négative du feu. C'est-à-dire qu'un brûlage contrôlé, c'est quelque chose qui peut avoir un intérêt fort, puisqu'il va avoir à la fois l'intérêt pour maintenir cette biomasse faible, donc limiter le risque lors d'un feu, mais également favoriser le développement de tout un tas d'espèces et d'une biodiversité qui est associée à ces milieux brûlés méditerranéens. En Australie, ils luttent le feu par le feu tout simplement parce qu'ils ont des forêts particulières qui résistent au feu. Les forêts australiennes brûlent, mais la plupart du temps, l'arbre lui-même ne meurt pas. Les eucalyptus australiens ne meurent pas. Le feuillage va mourir, mais ça va repartir des branches. Donc, on va retrouver dans les écosystèmes méditerranéens des espèces qui aiment le feu, c'est pas qu'elles apprécient particulièrement brûler, mais qu'elles sont capables soit de se développer dans les espaces brûlés, soit de résister au feu. Soit l'adulte lui-même résiste au feu, soit l'adulte produit à ce moment-là des graines qui permettent à la génération suivante de se développer. En général, ces espèces-là, c'est ça qu'on va retrouver dans la garrigue, c'est-à-dire des graminées, donc des herbes, les cistes méditerranéens, le ciste blanc, la messugue, le ciste de Montpellier, celui qui est un petit peu collant pour les doigts, le ciste à feuilles de sauge. On va trouver tout un tas de formes, enfin tout un tas d'espèces typiques des garrigues, comme le chêne kermesse par exemple. On va trouver également des espèces plus qu'on appelle les espèces dans le jargon écologique ruderales, c'est-à-dire celles qui se développent dans les milieux perturbés. Certaines composées, le laiteron acre se développe dans ces zones brûlées, mais on peut les retrouver aussi dans les remblais. Ce sont ces végétations qui apprécient les milieux perturbés, qui n'aiment pas les milieux stables. Et il y a bien sûr tout un cortège d'autres espèces qui n'aiment pas le feu, c'est-à-dire que ces espèces qui ne sont pas capables d'y survivre à l'incendie ou qui ne peuvent se développer que dans les espaces qui n'ont pas brûlé au cours du temps. Donc en particulier, on retrouve tout le cortège des espèces dites forestières, c'est-à-dire ces espèces qu'on va rencontrer dans les forêts vieilles. Ce n'est pas une forêt vieille, ce n'est pas une forêt qui a 50 ans. C'est une forêt qui va avoir un siècle et demi, deux siècles, qui va avoir un sous-bois particulier. Il y a très peu d'exemples en zone provençale de ces forêts-là. Il y en a quelques-unes, on en trouve dans les Maures, encore. On trouve la forêt de la Sainte-Baume, qui est un petit peu particulière, puisqu'elle a été exploitée, protégée depuis plusieurs siècles. Et par-ci, par-là, on trouve ces vieilles forêts. Et on va trouver donc ces espèces forestières, mais également des espèces en particulier dispersées par les animaux, et notamment les espèces à fruits qui ne supportent pas le feu. L'adulte ne supporte pas ou très peu le feu, et les graines elles-mêmes ne supportent pas du tout le feu. Donc on va trouver quoi? Le petit houx, le lierre, la salse pareille, le chèvrefeuille par exemple, sont parmi ces essences qui sont qui n'apprécient pas l'incendie, qu'on ne va pas retrouver dans les forêts qui ont brûlé. Si on s'intéresse à une espèce particulièrement intéressante pour le bassin méditerranéen et la France, c'est le chêne-liège. Le chêne-liège a la caractéristique d'être l'arbre qui résiste le mieux au feu grâce à son écorce de liège qui le protège. Donc, c'est une espèce qui est largement distribuée sur le bassin méditerranéen de manière historique. Maintenant, elle a été transplantée dans d'autres zones du monde pour la production de liège. Mais on l'a trouvé dans le sud de la France, en Italie, Corse, Espagne, Portugal, le Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie. Donc pourquoi il résiste? Tout simplement parce qu'il a des bourgeons qu'on appelle des bourgeons en langage technique, des bourgeons épicormiques, c'est-à-dire des bourgeons qui se développent sous l'écorce. Et l'écorce est suffisamment épaisse pour le protéger du feu. Et on a également la capacité de roger à partir de la souche, c'est-à-dire à partir de la base, telle que l'on la retrouve chez beaucoup d'autres arbres, à l'exception des conifères. Donc pin d'Alepe, pin sylvestre, tout ça, ça ne régénère pas à partir de la base. Donc de l'autre côté du monde, comme je vous l'ai dit, un eucalyptus, Eucalyptus marginata, espèce principale des forêts de la zone méditerranéenne australienne. Le tronc brûle. Mais après le feu, dans l'année qui suit, des bourgeons apparaissent. Et donc très rapidement, au bout de 5 ans, on a une forêt qui est plus dense encore que la forêt d'origine. C'est comme ça que les Australiens ont identifié qu'ils avaient l'obligation de brûler systématiquement l'ensemble de leur forêt dans une période de 6 ans. Donc si vous allez dans le sud-ouest australien, la totalité des surfaces forestières sont brûlées de manière volontaire, dans un taux de répétition de 6 ans environ. Tout ça pour maintenir la biomasse du sous-bois à un niveau faible, qui empêche les grands feux. Et les feux qu'on défrayait dans la chronique c'était en 2009, si je ne me trompe pas, donc dans l'été austral 2009, c'est-à-dire février, pour nous. Les grands feux qui sont causés n'étaient pas dans l'Australie sud-occidentale, donc la partie méditerranéenne, mais dans l'état du Victoria, l'Australie du Sud, sur lequel ils avaient une politique légèrement différente. Ils avaient abandonné ces politiques de brûlis systématiques, ce qui avait entraîné un développement très fort de biomasse. Et lors de périodes climatiques particulièrement exceptionnelles, il faisait plus de 40 degrés pendant plusieurs semaines avec des vents forts, il y a eu des feux extrêmement catastrophiques qui ont entraîné plus de 300 morts. Donc, qu'est-ce qui se passe? Première possibilité, lorsqu'on a un feu, qu'on est une espèce végétale et qu'on veut se régénérer, soit l'adulte ne meurt pas et on repart à partir de bourgeons, soit l'adulte meurt et il faut repartir de la graine. Alors, soit on est une espèce qui ne résiste pas au feu, et à ce moment-là, il faut venir d'ailleurs, et en général, on utilise le moyen aéroporté chez ces espèces végétales, qu'on appelle ornithocorie lorsqu'on est transporté par les oiseaux, et chez nous, le plus commun et le plus efficace, c'est le jet des chênes. Donc il permet d'obtenir des petites plantules de chênes, puisqu'il va les prendre dans les arbres survivants à proximité et les transporter progressivement vers d'autres endroits. Le jet a la particularité de prendre les glands pour les cacher, il constitue des caches pour s'alimenter plus tard, mais comme il n'a pas forcément une mémoire infinie, il en oublie quelques-unes, ce qui permet d'avoir des germinations très efficaces. Une autre solution, c'est de protéger les graines contre le feu. Ça s'appelle la sérotinie. C'est une propriété de certains végétaux qui est d'avoir des fruits, porte-fruits très, très épais, qui protègent du feu et qui s'ouvrent après le feu. En France, enfin en zone méditerranéenne européenne, on a une espèce sérotineuse, donc qui a cette capacité, c'est le pendalep, qui est la deuxième espèce. C'est cette espèce qui est particulièrement abondante après le feu. Qui est la seule qui peut être considérée comme sérotineuse chez nous. Donc un cône de pendalep, bien connu, la pomme de pin, la pigne. Avant feu, elle est bien fermée. Et après feu, elle va s'ouvrir dans les jours ou les heures qui suivent le feu. Elle va s'ouvrir et libérer les graines. Ça se déroule également lorsqu'on a des périodes extrêmement sèches. C'est le même phénomène, dessiccation, les écailles s'ouvrent et libèrent les graines, parce que c'est un signal favorable pour cette espèce, qui est une espèce qui apprécie les conditions sèches. J'avais prévu de discuter un petit peu sur les régimes annuels de feu au cours du temps. Je vais passer très rapidement là-dessus parce que l'heure tourne et je parle un petit peu trop. Simplement, les statistiques nationales des feux, on peut voir, comme je vous ai dit, ce taux moyen de surface brûlée qui est environ 15 000 hectares depuis notamment les années 90. Sauf à un exceptionnel tel que 2003, à comparer avec la période avant 1990, où on avait des fluctuations beaucoup plus fortes, avec un taux moyen brûlé de 30 000 hectares, pour lequel on avait des mesures de prévention qui n'étaient pas aussi bien implantées qu'à l'heure actuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a des moyens de prévention forts, politiques de toutes sortes, débroussaillement, coupure combustible, préposition des forces opérationnelles, moyens aéroportés, etc., on a un contrôle du feu efficace. Sauf lorsque le climat s'en mêle et devient un peu trop extrême. Parce que si le climat devient trop extrême, si ça devient trop sec et sur des trop grandes surfaces, et qu'un feu se déclenche, d'une part, le feu devient extrêmement intense et difficilement contrôlable, et d'autre part, il va y avoir une multitude de départs de feu qui vont entraîner une difficulté de lutte. Et pourquoi je vous parle de cette année un petit peu exceptionnelle? Parce que on se trouve face à un deuxième contexte, le dernier point de mon exposé, qui est le changement climatique. Et ce changement climatique pourrait sans doute continuer à modifier les forêts méditerranéennes, puisqu'on l'a vu, principalement, ces modifications résultent des activités humaines dans le passé, mais maintenant on a un nouveau opérateur, le changement climatique, qui va entraîner des bouleversements qui peuvent être de plusieurs natures. Premier effet, ça peut être un effet direct du changement climatique par augmentation des températures, diminution de la pluviométrie. D'autant plus que les changements climatiques sont prévus d'être particulièrement forts dans la zone méditerranéenne. Ça fait partie des zones sur lesquelles les changements climatiques sont les plus forts en termes d'augmentation de température. Et ça se couple à ces augmentations extrêmement fortes de forêts au cours du dernier siècle. Donc on se dirige vers un avenir plus chaud. Donc si on prend une sortie d'un modèle sur les évolutions des températures probables au cours entre la période de 1900 à 2100, on voit par exemple la période 2003. Il a été souvent dit dans les médias à différents moments que l'été de 2003 était l'été standard de 2070. Donc on s'imagine bien que si l'été de 2003, qui a vu des surfaces de feux exceptionnelles, devient une année standard, on va avoir une augmentation très forte du risque incendie. C'est ce qui s'est passé en Australie récemment. On avait un climat extrême. Et on se dirige nous-mêmes vers des climats extrêmes. C'est qu'à partir du moment où on aura un climat qui correspond au climat qui est habituellement celui de l'Andalousie, les Andalousies n'est pas tellement connu pour ses forêts. On est plutôt connu pour des végétations de type garrigue, sauf dans les secteurs un petit peu plus montagneux, on va trouver des forêts. Donc, ce changement climatique, il avait déjà commencé à se faire sentir au cours du XXe siècle sur les écosystèmes forestiers au niveau national, puisqu'on a constaté une augmentation de la productivité des forêts au niveau national, et qui est une augmentation de productivité entre 8 et 50% pour le Penalep en particulier, qui résulte de cette augmentation des températures qui entraîne des hivers moins rigoureux, des automnes un petit peu plus chauds, etc. Mais également, ça entraîne des dépérissements lors des sécheresses. Si vous vous souvenez, entre 2003 et 2007, on a eu des périodes extrêmement sèches, avec des pluviométries qui étaient de 50% à 60% des pluviométries habituelles. Sur cette période-là, on avait quasiment accumulé un déficit d'une année complète de pluie. Et sur le pin d'Alep, on commençait à voir apparaître des dépérissements qui commencent par des pertes de feuillage, des feuillages qui s'éclaircissent. Lorsqu'un feuillage s'éclaircit, ce n'est pas très bon signe. Il y a plus de lumière qui arrive au sol, donc il fait plus chaud, il y a plus d'eau qui part du sol. Tout le système s'enclenche et ça sèche. Bon, fort heureusement, depuis 2007, on a plutôt des printemps humides qui a un petit peu minimisé ça, une reconstruction de végétation. Pour le pin sylvestre, on avait des situations sanitaires un petit peu plus graves, puisqu'on avait carrément des mortalités surpliées, de grandes surfaces forestières dans l'arrière-pays méditerranéen qui commençaient à s'observer. Donc, que dire par rapport à ça? Bon, d'une part, on s'attend à des changements climatiques avec des augmentations de température de 2 à 4 degrés, voire plus, pour la zone méditerranéenne française, sur cette période 2070-2100. Certains modèles disent plus 6 degrés. On avait l'habitude d'avoir des modèles assez optimistes. Optimiste, ça veut dire avec une faible augmentation de température, parce qu'on considérait que les pays allaient se mettre d'accord sur des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce n'a pas été le cas. Donc actuellement, tous les modèles sont révisés à la hausse. Et c'est plutôt les hypothèses les plus pessimistes qui sont retenues, c'est-à-dire plus 4, plus 6, pour ce qui nous intéresse. Alors pour nous, c'est lié directement à une conséquence, c'est que le risque incendie est directement lié au climat. Le Météo France calcule un indice feu météo qui est utilisé l'été pour donner les périodes à risque. Vous savez, ces jours qui sont noirs, rouges ou oranges, qui vous autorisent ou pas d'accéder aux massifs forestiers, ils résultent de cet indice feu météo. Et on sait qu'une augmentation de 1 degré de température entraîne 20% d'augmentation de l'indice feu météo, et que l'augmentation prévue des températures, elle est plutôt de plus 2 à plus 4 degrés. Donc on va avoir une augmentation de l'indice de risque qui va de plus 40 à plus 80%. Donc on s'attend à avoir des périodes à risque plus fortes, plus longues. Alors si on considère que les espèces méditerranéennes sont plutôt résistantes à la sécheresse, si on prend le pin d'Alep, on trouve des pins qui poussent, comme je vous l'ai dit, jusqu'à 200 mm. Ça ne s'empêchera pas que peut-être les pins d'Alep provençaux auront peut-être des problèmes. Il faudra peut-être faire venir des pains d'Alep d'Israël ou du Liban ou de Turquie, je ne sais pas, pour compenser ça, à condition qu'il ne fasse pas trop froid l'hiver. Par contre, on a un risque de modification des forêts qui peut résulter de l'interaction de ces feux. C'est-à-dire que les forêts sont résistantes à la sécheresse, peut-être, mais elles le seront-elles lorsqu'on aura une combinaison de sécheresse plus feu. Sans compter que actuellement, l'État se pose aussi la question des politiques de prévention des luttes d'incendie à partir du moment où le territoire concerné par les incendies ne sera plus simplement le pourtour méditerranéen, mais la moitié de la France. Parce que ce qui est prévu, c'est que les zones à risque d'incendie telles que nous les connaissons à l'heure actuelle, c'est-à-dire grosso modo les départements de toute la façade méditerranéenne, ça s'étende sur toute la moitié de la France, en remontant jusqu'à peu près Nantes et toutes ces forêts vendéennes, le sud-ouest, etc., sera dans les zones à conditions climatiques équivalentes à celles que nous connaissons actuellement ici. Donc se pose la question de la gestion de ces espaces. Comment gérer ces espaces, soit pour minimiser les risques, soit pour favoriser la capacité d'adaptation des espaces méditerranéens à ces conditions nouvelles, sécheresse et augmentation des feux, en sachant que de plus en plus les populations augmentent. On a une augmentation extrêmement forte des taux de population dans les zones sud de la France, qui résulte plutôt d'une migration des personnes vers le sud, qui fait qu'on a actuellement des taux d'augmentation de population prévus qui s'accroissent. Donc tout ça fait une espèce de petit cocktail délicat. Plus de population, donc plus de risques de déclenchement de feux, puisque la plupart des feux sont liés aux activités humaines. Un climat plus chaud, donc une possibilité plus forte pour que ces feux se déclenchent. Couplé à des conditions de sécheresse plus intenses qui vont peut-être entraîner des plus grandes difficultés de régénération de ces forêts. Alors, si on s'intéresse purement à la question forestière, on peut être assez négatif sur l'avenir des forêts telles que nous les connaissons, en tout cas sur le sud. Si on s'intéresse à la végétation naturelle, on va continuer à avoir de la végétation. Et peut-être que ce sera des végétations qui ressembleront plus à ce qu'on va trouver sur les calanques, par exemple, ces garrigues pelées, rocailleuses, sauf aux endroits où on a des sols suffisants pour maintenir de l'eau en toute période de l'année. Ou ce qu'on va trouver en Andalousie. Ce sont des garrigues constituées non pas de chênes kermès, mais d'espèces de romarin, qu'on trouve ici, de la jonc de Provence aussi, de palmiers nains. On a le palmier nain qu'on trouve en Andalousie, qu'on trouve aussi en Provence. Actuellement, il est extrêmement circonscrit dans certaines zones des Alpes-Maritimes, mais il peut très bien se développer en faveur d'augmentation thermique. Et je terminerai mon exposé là-dessus. Thank you.